Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous êtes actuellement sur la 94.9 FM sur Graphite et vous écoutez la saison 3, épisode 1 de Co-Critics, l'émission qui parle de livres, de BD et de manga à peu près toutes les deux semaines. J'ai aujourd'hui avec moi mes amis de la première heure, là depuis les tout débuts, pourquoi vous rigolez, je sais pas. Melwan, on peut applaudir. Moi. Et c'est tout. Non, je plaisante. Allez, va, ouais. Ah, j'ai pas dit tout seul. Bon, excusez-moi, c'est une catastrophe quand Eva n'est pas dans le contrôle. Aujourd'hui, vous êtes avec moi. Bon, on est tous les trois membres de la BDBDEC, la bibliothèque de bande dessinée des étudiants de Compiègne. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram pour suivre notre actualité. Et bien évidemment, à la bibliothèque universitaire de l'UTC. On est parti pour une heure d'émission. Voilà, voilà. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. On vous fait découvrir des perles rares, des mangas qui ne vous sont pas conseillés sur les top 10 ou les top 20 ou les top 30, voire les top 500. Non, j'exagère.
Je pense que
les top 50 de Seinen, je peux vous dire, j'en ai lu beaucoup. C'est toujours les mêmes. Et donc aujourd'hui, on vous fait découvrir des perles rares que peut-être vous n'auriez pas découvertes. Oui.
Oui.
Et on commence tout de suite avec Melwan. Avec une lecture que j'ai lue et qui n'est pas de son âge.
Alors, bah, merci beaucoup. C'est pas vexant du tout, t'inquiète. Mais dans tous les cas, moi, je vais vous parler. En vrai, donc, parce que Mathieu l'a déjà lu et en vrai, je pense que beaucoup de gens en ont au moins déjà entendu parler, je vais vous parler de Homunculus. Et Homunculus, c'est donc un seinen qui est relativement connu en soi. Je sais pas si... En tout cas, le panel le plus connu, c'est un homme qui se tient avec une feuille morte sur ses yeux, qui dit « What does it mean to be human ?» Donc, en soi, oui, c'est à peu près connu. Mais si vous en avez entendu parler, faut le lire aussi, je trouve. Parce que, ensuite, l'histoire d'un homme qui est assez particulier, parce qu'il se retrouve SDF entre un parc et un hôtel de luxe. Donc, dans sa voiture, il dort. Et un jour, un homme étrange l'approche et il se retrouve avec des pouvoirs assez particuliers qui permettent de visualiser les... pas forcément les traumatismes, mais la représentation des problèmes mentaux d'une personne. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui aura, par exemple, eu une mauvaise expérience avec son cou, avec sa nuque, lui, il sera capable de voir cette personne comme quelqu'un qui essaye de cacher son cou, alors que dans la réalité, il ne fait rien. Et il y a aussi une autre chose beaucoup plus parlante, c'est un homme qu'il connaît va juste pour lui ressembler à un œuf complètement impénétrable, comme si la personne était recroquevillée et qu'il ne pouvait pas du tout... lui parler, que c'était un objet immobile qui le rejette. Et donc, en fait, ce manga est très particulier parce que déjà, il est sorti dans les années 2000 dans les seinen, et les années 2000 dans les seinen, il y avait des trucs un peu bizarres qui sortaient, genre I'm a Hero.
C'est vrai, je connais aussi et je l'ai lu aussi.
Oui, je...
Tu veux une médaille, c'est bien.
C'est tout ce que t'as lu, mais moi je l'ai lu.
Voilà, alors,
il est meilleur que nous.
Bon. Oui, apparemment.
Vas-y, Milouane, continue. On s'en fout.
Et comment dire, du coup, Homunculus, le personnage principal, ce qui est assez marquant, c'est que le personnage principal n'est pas forcément une bonne personne. Parce que plus on en apprend sur son passé, plus on se rend compte qu'il a été tourmenté par beaucoup de choses. Et qu'au fil du temps, il s'est retrouvé à se retrouver dans cette situation pour une raison particulière. Tout seul, dans sa voiture, sans famille, ni ami, c'est quelque chose qu'il a un peu, qu'il a un peu forcé sur lui-même. Enfin, comment dire, quelque chose qui est arrivé par rapport à des décisions qu'il a faites. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est qu'il y a toute l'histoire... Il y a tous les personnages qui sont vraiment intéressants en soi. L'homme, justement, qui l'a approché et qui lui a, entre guillemets, donné des pouvoirs, c'est un homme, en fait, qui veut être une femme. Donc, c'est une femme trans vers la fin du manga. Et c'est ça qui est plutôt impressionnant, c'est qu'on se retrouve avec un personnage principal qui est assez détestable, mais en général, un point de vue super extérieur de toute... de toutes les situations dans lesquelles le personnage principal se retrouve. Et on se rend compte de ça, notamment par rapport au fait qu'en fait, le pouvoir qu'il a obtenu, c'est un pouvoir qui... Bon, c'est un pouvoir qui reflète aussi ce que lui perçoit par rapport à lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il voit quelqu'un qui a des problèmes au niveau de la nuque et, comment dire, il, au lieu de voir quelqu'un d'autre, c'est plus qu'il voit une réflexion des problèmes que lui a déjà eus.
Bon, et, sans aller plus loin, je pense que t'as oublié un élément super important de l'histoire quand même.
Quoi ?
C'est que tout au long de l'histoire, on ne sait pas si c'est vraiment un pouvoir ou pas.
Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. En fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que ça pourrait être juste ce mec qui part un peu en couille, parce que plus le manga avance, plus des, justement, vous voyez, il y a des panels assez dérangeants qui apparaissent dans le manga. Et comme je l'ai dit, c'est un homme dérangé, un homme qui a des problèmes et un homme qui ne les traite pas. Dans Humonculus aussi, alors il y a des scènes très choquantes, mais ce qui est un peu en fait particulier pour un manga qui est sorti dans les années 2000, c'est que bah il y a la présence quand même représentation de personnes transgenres, et je trouve ça vraiment représentatif du manga, parce que bah c'est un film, c'est un truc qui est sorti dans les années 2000, qui était pas l'auteur n'était pas connu non plus. Et en plus de ça, les scènes qui se sont passées quelques tomes avant étaient vraiment très répréhensibles, on va dire. Mais il y a quand même la présence d'une femme transgenre. Et je trouve ça intéressant quand même. Voilà. Donc voilà, donc j'en dirai pas plus. C'est un truc très intéressant par rapport à la compréhension de l'autre. Et qu'est-ce qui vient de la compréhension de l'autre et la compréhension de soi-même grâce à la compréhension de l'autre.
Ouais, voilà, pour finir, du coup, plus, c'est vraiment bien, mais c'est pas du tout pour tous les publics.
Ouais.
Il y a beaucoup de trucs, bon, en vrai, c'est choquant. Très choquant.
Oui.
Et au-delà des trucs, au-delà des scènes qui sont choquantes, c'est pas un shonen, c'est pas un manga de combat. C'est que du texte, quoi. Donc, il faut être prêt à lire comme si on lisait un roman et à se préparer pour des thématiques qui sont pas faciles.
Ouais, voilà.
Mais sinon, c'est excellent.
Et voilà. C'est long ou pas ?
Ouais, je crois que c'est assez long.
Je crois qu'il y a quand même 200 chapitres, un truc comme ça.
Ouais, okay,
Ouais, mais il vaut mieux pas tout se manger d'un...
Il y a beaucoup de choses, il faut vraiment essayer de comprendre même ce qui se passe, parce que des fois...
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe aucun autre manga qui ressemble à celui-là.
Ouais, c'est ça. Okay. Et l'auteur, l'auteur que j'ai noté, Hideo Yamamoto, qui a réalisé ça dans les années 2000, j'ai jamais entendu parler d'un de ses autres travaux avant. J'ai regardé un peu, on ne connaît pas trop. Donc
voilà, Homonculus, si vous voulez vous prendre la tête,
ouais,
c'est très bien.
Voilà, c'est ça.
Okay.
On va apprendre beaucoup de choses aussi. Bon, on va passer à la suite. À Eva, on t'écoute.
Ouais. Alors moi, du coup, je vais venir vous parler de Full Night de Kazumi Yasuda, dont j'ai déjà parlé dans cette émission plusieurs fois, mais je pense que c'est toujours bien d'en reparler un peu plus, parce que visiblement ça rentre pas dans le cerveau de mes amis quand je leur dis de le lire, mais c'est pas grave. Du coup, c'est un manga qui a commencé à être écrit début 2020, et pour un petit résumé, ça se passe dans un futur plutôt proche. Le ciel est recouvert d'un épais nuage noir et aucun rayon du soleil ne peut donc passer. Le monde est plongé dans une nuit perpétuelle. Le principal problème, c'est que les plantes ne poussent pas non plus, sauf que s'il n'y a pas de plantes, les humains ne peuvent pas vivre non plus. Forcément. Les hommes ont donc trouvé une solution pour contrecarrer ce problème, la transfloraison, c'est-à-dire qu'ils vont planter une graine un peu spéciale dans le corps d'un humain. Cette graine va pousser, produire une plante qui va se nourrir du corps de l'humain plutôt que de se, entre guillemets, nourrir de soleil. Ce qui va entraîner la dégradation progressive de l'humain qui porte la plante, qui est toujours vivant à ce moment-là, ainsi que sa mort en environ 2 ans. Sauf que c'est un petit peu horrible comme destin quand même. Donc pour que des personnes acceptent de subir ça, les instituts de transfloraison leur proposent en échange une immense somme d'argent. Notre personnage principal, Toshiro, se laisse séduire par cette idée, mais manque de chance, une fois transfloré et sorti de l'institut, il se fait tabasser dans une ruelle et voler tout son argent. Même s'il semble avoir tout perdu, on dirait qu'il a acquis une capacité que les autres n'ont pas, celle de communiquer avec les autres sanctiflores, c'est-à-dire avec les autres plantes anciennement des humains. Cette capacité va le plonger au cœur d'une enquête gigantesque, le menant à comprendre tous les rouages de sa société, et aussi ses profondes inégalités, parce que le manga, en fait, il est indissociable de la situation politique actuelle, quelque part, j'ai envie de dire, parce que non seulement il parle des enjeux politiques propres à son univers et à sa société, mais ça fait évidemment écho à des enjeux politiques et sociétaux qui se passe dans notre société aussi. Le manga, je le suis depuis environ 2 ans et j'en entends très peu parler et c'est très dommage parce que c'est vraiment très bien, aussi bien en termes de narration, en termes de scénario, en termes de dessin, c'est vraiment magnifique aussi. Du coup, il y a beaucoup de fleurs, forcément, mais c'est aussi très glauque, très sombre et littéralement sombre parce que les personnages sont toujours plongés dans le noir et aussi un peu très déprimant parce que quand on est plongé dans le noir tout le temps, les personnages sont...
C'est très dystopique.
Ouais, un petit peu. En fait, la société, quand on la voit comme ça, elle n'a pas l'air si dystopique que ça. Mmh. Parce qu'il y a des... En fait, ça ressemble à notre monde, tu vois.
Oui, je vois.
Parce qu'il y a des forces de police qui ont l'air d'être plutôt normales, mais on se rend compte qu'elles sont, en fait, corrompues. Il y a des instituts, il y a des hôpitaux, il y a des instituts, évidemment, il y a des classes sociales, il y a des écoles qui fonctionnent plutôt bien et tout. Mais en fait, quand on rentre un peu au cœur de l'enquête, qui est finalement l'intrigue principale du manga, ça nous permet, en fait, d'explorer cet univers-là et de se rendre compte à quel point... il est horrible et à quel point ce système de transfloraison est à la fois nécessaire mais à la fois induit de nombreuses inégalités. Je dirais plutôt qu'il les creuse. Enfin bon, je vous invite à le lire. En tout cas, c'est assez dense, il y a beaucoup d'informations. C'est mieux de un peu tout lire d'un coup, ce qui est un peu difficile puisque le manga est en cours. Donc les chapitres, ils sortent assez régulièrement, les tomes aussi. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va se terminer. Et,
Est-ce que tu penses que c'est proche de la fin ou pas ?
De là où j'en suis, non.
Ok.
Mais je sais, enfin, je pense que moi, je lis les tomes quand ils sortent en France. Du coup, je suis pas exactement à jour sur tous les chapitres qui sont sortis. du coup, de ce qui est sorti en France, non. Maintenant, enfin, je pense pas. Maintenant, peut-être qu'en fonction de ce qui est sorti au Japon, oui. J'en ai aucune idée. J'ai pas fait de recherche du tout par rapport à ça. Voilà.
Est-ce que ça t'intéresserait, Melwan ?
Alors, oui, ça m'intéresserait, mais tu me dis que ça sort depuis 2 ans, à un rythme...
En vrai, parce que moi, j'ai commencé à lire il y a 2 ans, mais le manga, il sort depuis 2020.
Bon, en fait, ça m'intéresserait vraiment, mais en fait, ça dépend si ça tire un peu vers la fin...
Ouais, je sais pas.
quand je dis vers la fin, mais plutôt vers les chapitres les plus récents, s'ils tirent un peu l'histoire.
Je comprends, t'as pas envie de t'y mettre maintenant, c'est pour qu'en fait, il faut encore suivre pendant 6 ans.
Ouais,
à la fin.
Ouais.
Je comprends totalement, j'en ai aucune idée, pour être honnête. Du coup,
Et ben, très bien, Eva. Merci.
J'espère que vous le lirez, du coup. Mm. Pas de pression.
C'est pas toi qui décide. Et maintenant, c'est moi qui parle.
Je devrais décider.
Je reprends le contrôle de la radio, parce que c'est mon émission. Assez parlé de manga. Et soyons des vrais weebs, comme nous le sommes tous ici, autour de cette table. Et on va parler d'animé. Voilà. J'ai un peu une complainte à faire. Est-ce que je suis le seul à me sentir... j'ai pas le mot, en fait. En fait, ça fait un bon bout de temps que je regarde énormément de séries d'animation japonaises et que j'en trouve plus aucune qui m'excite, plus aucune qui soit différente. Oui. En fait, pour être honnête, toutes les sorties, je trouve que tout est monotone, je trouve que tout est pareil et ça m'ennuie. Et peut-être que beaucoup d'entre vous sont dans ce cas, et je suis là pour régler tous vos problèmes.
Moi, je regarde pas trop d'animés.
Bon, allez, hop.
Un moment, j'en regardais. Aujourd'hui, c'est vrai que je regarde pas beaucoup.
Ah, d'ailleurs,
j'ai un peu perdu la flamme, quoi.
Justement, c'est pour. J'ai pas le mot encore, mais c'est pour rallumer la flamme. Si, c'est ça, j'ai le mot en fait.
Raviver là.
Et c'est pour pas regarder des séries qui disent rien, comme par exemple, je l'ai marqué en gras, pas comme Arcane.
Waouh.
Oui.
Oui. Wow. Bref, je vous propose une toute petite sélection. Je vais passer très vite à chaque fois. De 3 animés courts, pas plus de 12 épisodes, je vous le promets, et qui sont excellents et plus ou moins connus. Je vais commencer par le plus connu. Alors, le premier, il s'appelle Fully Cooly, FLCL, en 3 saisons, mais je vous conseille que la première parce que c'est celle que j'ai eue.
Attends, il y a 3 saisons ?
Eh oui. Donc, je vais vous parler que de la première, qui est en uniquement 6 épisodes. Alors, Fully Cooly, c'est quoi ? Eh bien, c'est un peu compliqué en fait. Si on reste terre à terre, c'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui s'appelle Naota Nandaba, qui voit sa vie ordinaire chamboulée par l'arrivée d'une femme sur son Vespa, donc un Vespa c'est un scooter, hein, qui s'appelle Haruko Haruhara. Lors de leur première rencontre, elle le renverse et elle le frappe avec sa basse, déjà ça n'a plus de sens. Et à partir de cet événement, des boss à partir desquels sortent des robots apparaissent sur Naota.
Quoi ?
Voilà.
C'est un trip cet animé.
Ah ouais.
Bon, comme ça, on comprend pas grand chose et ça a l'air un peu nul, mais en fait, c'est incroyable.
Ouais, c'est juste un truc très intéressant à dire, je dirais pas plus, mais le storytelling est bizarre, ouais. les personnages sont bizarres, le scénario est bizarre et même la soundtrack est un peu bizarre, c'est-à-dire que même dans les moments les plus chill, t'auras du gros rock.
Ouais.
Okay.
Mais pas du rock hardcore, c'est vraiment juste de la J-pop rock, quoi.
Ok, bon, mais est-ce que juste... est-ce que ça raconte quelque chose d'intéressant ou alors c'est que des trucs bizarres pour des trucs bizarres et à la fin c'est en mode bon bah c'était bizarre et c'est tout.
C'est quoi le thème principal du Fooly Cooly me direz-vous?
Bah, les petits robots qui sortent des boss.
Non, le fait de passer à l'âge adulte. Bon là comme ça on va pas trop le lire. Okay. Mais en fait il y a un élément...
dès le début.
On remarque, bon alors je sais pas de quoi tu vas parler, mais moi ce que j'ai remarqué c'est que la plupart des enfants de ce monde se comportent un peu comme des adultes, et tous les adultes se comportent comme des enfants. Bon bref, il y a plein d'inversions un peu partout. Par exemple, Haruko, donc la femme sur le Vespa, c'est une énorme gamine, on comprend absolument rien de ce qu'elle dit, et tout part... J'allais dire un gros mot, mais vous avez compris.
Mais c'est un peu fun à regarder quand même, c'est tout part en couille, mais c'est juste fun à regarder.
Donc pour vous faire un rapide résumé, c'est un tout petit animé en 6 épisodes, qui est très farfelu, assez drôle, qui est sorti il y a longtemps, il y a 20 ans, mais dont l'animation est vraiment excellente, je trouve. Oui. En y repensant, c'est vraiment incroyable, avec une soundtrack que vous écouterez à la fin, qui est du rock, comme a dit Belwan, qui est incroyable, vraiment, je pèse mes mots, elle est incroyable. Et en plus, c'est intéressant. Par contre, il faut quand même noter que pour comprendre ce qui se passe dans Fooly Cooly, il faut quand même un peu réfléchir. Ouais. Parce que si tu aussi regardes juste Fooly Cooly pour rigoler, on va rien saisir de ce que je viens de te dire. Ouais. Globalement, pareil, il y a plein d'aspects du scénario, parce qu'il y a un scénario qui est quand même pas assez complexe, mais qui est un peu compliqué. Franchement, si j'avais pas lu sur Wikipédia de quoi ça parlait, j'aurais jamais compris de quoi ça parle. Ouais. Donc, c'est pour prévenir.
Alors, moi, personnellement, j'ai réussi à comprendre de quoi ça parlait parce que j'ai regardé Kill la Kill, et dans Kill la Kill, au tout début, il y a la même référence qu'il y a au début de...
Ah ouais,
de Fooly Cooly par rapport au citron. Voilà, je dirais.
Je vois que Alva, toi, t'as pas l'air
chaud. Très perdu.
Je pense que vous n'avez absolument rien compris.
Peu, mais...
Tout ce que vous devez retenir, c'est que si vous voulez quelque chose qui ne ressemble à rien dans l'animation, à rien du tout, qui a uniquement 6 épisodes et que vous adorez le rock japonais, regardez Fooly Cooly.
Oui, c'est clair. Mais, voilà. Je crois que Fujimoto, le créateur de Chainsaw Man, a parlé de ça comme étant une de ses inspirations et ça se voit. Ça se sent.
Ok.
Donc, c'est une petite dinguerie.
Intéressant.
Et c'est un peu connu, mais pas trop. Maintenant, je vais vous parler d'un autre animé, le deuxième, qui, lui, est un peu moins connu encore. Mm-hmm. Bon, ça s'appelle en anglais Now and Then, Here and There, en français L'Autre Monde, et en japonais Moi qui suis là maintenant. Voilà.
D'accord.
C'est un animé qui est sorti à 26 ans, en 1999, et qui ne fait que 12 épisodes. Et c'est un isekai. Un isekai, c'est quoi ? C'est, pour faire très rapide, en gros, c'est un personnage de notre monde qui est téléporté dans un autre monde. Et voilà, bon, justement, pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'aujourd'hui, les isekai, de mon avis, tous ceux qui sortent depuis 10 ans sont nuls, mais vraiment, vraiment très, très nuls. Mais celui-là est vraiment différent et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, une première chose à préciser, si vous commencez à le regarder sans même regarder Synopsis, il faut aller au-delà de l'animation qui, contrairement à Fooly Cooly, est... très basique, on va dire. Ça fait vraiment dessin animé des années 2000, quoi. L'animation est pas folle, il y a pas de combat, il y a pas de trucs incroyables. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Donc déjà, pour raconter l'histoire très rapidement, même si elle est assez classique. Donc on suit un jeune homme qui s'appelle Chou, qui a un coup de foudre sur une autre femme qui s'appelle Alaru. Et bon, en gros, elle se fait capturer par des robots. Donc déjà, ça a plus trop de sens. Il traverse un portail interdimensionnel. Bon, et il se retrouve dans un désert. Bon, bref. Et ce désert, c'est pas juste un désert, en fait, il se retrouve sur une autre planète, et sur cette planète, c'est un immense désert dans lequel l'eau est devenue un luxe. Et en fait, il va rapidement se faire capturer par un des camps qui se bat pour cette eau, et il va en apprendre plus sur ce monde et sur le rôle de son crush qui s'appelle Alaru, qui a un rôle très important en ce qui concerne l'obtention de l'eau. Bon, comme ça, le scénario casse pas trois pattes à un canard. Bon, le capture par les robots, le portail interdimensionnel, voilà, c'est des facilités scénaristiques, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important dans l'histoire, et qui est vraiment génial dans la série, c'est que la série a un aspect très enfantin, mais aborde des sujets très très lourds. Et moi, d'une manière que je trouve assez subtile par rapport aux animés d'aujourd'hui, comme par exemple Arcane. Bref, je peux pas vous en expliquer trop, parce que j'ai pas envie de vous casser les surprises que vous réserve l'animé. Mais vraiment, la série aborde des sujets à propos de conflits armés, de guerres, ou d'autres sujets en général qui sont très peu abordés dans les séries d'animation japonaises. Et je trouve ça très rafraîchissant. Et un dernier mot pour dire qu'il ne faut pas vous attendre à un chef-d'œuvre quand vous allez regarder cette série. Ce n'est pas excellent sur 12 épisodes. Le premier et le dernier épisode sont même assez nuls, je trouve. Mais ce qui justifie de voir cette série, c'est qu'il y a certains passages en particulier qui sont vraiment incroyables pendant qu'on regarde la série et qu'aucun animé ou aucune série récente ne peut nous donner aujourd'hui. Justement, ce que j'ai noté, c'est que l'animation est très mauvaise, mais grâce à ça, ça nous pousse en fait à... En fait, je pense à une scène en particulier où c'est quasiment en plan fixe. Il y a de la musique qui se lance, mais la scène est quand même incroyable. Et je trouve que ça dénote vraiment par rapport, là, je pense à Jujutsu Kaisen, je pense à Arcane, où il y a ça, des explosions visuelles de partout, notre cerveau il est surconcentré sur plein de choses, et au final, bon voilà, on ressent pas forcément beaucoup de choses. Alors que là, juste un fond, la musique l'animé compte sur notre empathie en fait pour nous toucher, et sur moi ça a marché. Donc c'est juste pour vous prévenir. Donc c'est Now and Then, Here and There, et sorti en 1999. Voilà.
Bah du coup, un dessin simple pour qu'on puisse se concentrer plus facilement sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire le scénario, les subtilités.
Bah, je sais pas, c'est pas pour ça, c'est juste que ça nous fait faire ça.
Okay.
C'est une conséquence, je pense pas qu'ils ont fait exprès.
D'accord.
Bon, et pour finir, je vais vous parler de mon préféré et du moins connu, celui-là. Je pense que vraiment aucun d'entre vous n'en a jamais entendu parler. En fait, c'est un animé que j'ai vu très tôt, mais j'en ai jamais vu de pub, jamais rien vu, personne ne le conseillait. C'est un animé qui s'appelle Kyusujiga, qui est sorti en 2011. D'abord un seul épisode, puis 6 épisodes, puis 12 épisodes. C'est assez particulier, puisqu'en fait, 7 épisodes, les 6 épisodes et les 12 épisodes, c'est exactement la même histoire à chaque fois. Donc, je vais vous faire le résumé Wikipédia, parce qu'en fait, pareil, c'est une histoire un peu loufoque. Donc, il y a très longtemps, vivait un moine du nom de Mioe qui pouvait donner vie à tout ce qu'il dessinait. Il vivait paisiblement avec sa femme, qui s'appelle Koto, un lapin noir sous forme humaine, et leurs 3 enfants, dont je ne vais pas donner le nom parce que c'est trop compliqué. Un jour, le grand prêtre du pays a conclu que les dessins de Mioe suscitaient trop de problèmes pour les habitants et lui a ordonné de trouver une solution. Par conséquent, il décide de fuir vers un monde alternatif dessiné par lui-même, la ville de Kyoto, appelée également la ville miroir. Et tout se passe bien jusqu'au jour où Mioe et Koto disparaissent soudainement de cette ville et l'administration de la ville est laissée donc à leurs 3 fils. Donc déjà, ils ont plein de problèmes. Mais en plus de ça, il y a un nouveau problème qui arrive lorsqu'une jeune fille qui s'appelle également Koto, donc Koto comme la femme du prêtre, s'écrase du ciel et déclare qu'elle cherche aussi les vieux Mioe et Koto, donc Mioe le moine et Koto sa femme, le lapin noir. Voilà, donc déjà, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un animé incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Déjà, pour vous expliquer comment je l'ai regardé et comment, à mon avis, vous devriez le regarder, donc je vous ai dit, il y a un épisode, puis 6, puis 12. Moi, je vous conseille vraiment de regarder un épisode, puis 6, puis 12, parce qu'en fait, tout parle de la même chose, mais au début, quand on regarde un épisode, forcément, on ne comprend rien. Ensuite, on regarde les 6, on comprend un peu plus, et enfin, quand on regarde les 12, tout nous est révélé. Et ce qui est vraiment fort dans cet animé, c'est à quel point c'est mystérieux au départ. Là, je vous ai décrit l'histoire qui est un peu extravagante comme ça, mais il faut bien se rendre compte que l'univers est très particulier, très intéressant. Je n'ai jamais vu pareil d'univers développé dans des scènes d'animation comme ça. Et bah oui, encore une fois, au début, les 3 premiers épisodes, on ne comprend absolument rien de ce qui se passe. On ne comprend pas le but donc, de Koto, la fille qui est tombée du ciel. On ne comprend pas comment fonctionne le monde dans lequel il se trouve. Il y a plein d'éléments qui se rajoutent, et ce qui en fait quelque chose de super mystérieux et super prenant. Pour les thèmes abordés par cette série, ça va être des choses en rapport avec... Parce que là, comme ça, on ne comprend pas trop de quoi ça parle. Ça va être des choses, je trouve, des thèmes très, très importants qui vont toucher à la famille, à la nostalgie et au foyer. Alors comme ça, pareil, on se dit comment cette histoire peut toucher à ces thèmes. Mais en fait, quand on regarde l'animé, c'est vraiment, vraiment évident. Et si il y en a un seul des 3 que vous devriez regarder, je pense que c'est celui-là. Surtout que vraiment, je trouve qu'il n'a pas la popularité qu'il devrait avoir. Encore une fois, il est sorti donc il y a plus de 10 ans maintenant, et là, son animation est incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Et voilà, je vous conseille. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir des images des 3.
Oui, ouais, j'ai regardé des images.
Est-ce qu'il y en a un qui vous attire plus que l'autre, peut-être?
Celui dont tu viens de parler.
Ah ouais.
C'est, déjà, il a l'air plus récent aussi, je crois. Et c'est super coloré. Effectivement, ouais. On retrouve... j'ai pas vu beaucoup d'images, hein, mais... Ça se voit que c'est spécial, on va dire.
Bah, en fait, le truc de devoir regarder 3 fois la même histoire, d'un côté, ça me donne pas trop envie. Okay. Parce qu'un pote a essayé de me recommander La Malédiction d'Haruhi Suzumiya.
Pour ça. Oui, je connais.
Et il y a un peu ce délire...
Ça n'a rien à voir.
Oui, non, mais bien évidemment. Mais en fait, il y a un truc que j'aime pas, c'est de me dire... par exemple... le bon ordre pour le regarder, c'est de regarder 4 fois le même épisode.
Non, après, je me suis peut-être mal exprimé.
Ouais.
Si vous voulez juste regarder l'animé, vous regardez juste les 12 épisodes.
Okay.
C'est juste que moi, je l'ai découvert en regardant 1, puis 6, puis 12, en fait, dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont sortis.
Ah, t'as regardé le premier, puis ensuite...
Oui, parce qu'en fait, j'ai découvert par le premier, après, je me suis dit, oh, mais en fait, il y a 6 épisodes en plus, puis j'ai regardé les 6 autres, et ensuite, j'ai regardé les 12. Mais en fait, normalement, on regarde juste les 12. Ah, j'ai pas été clair là-dessus.
Ouais.
En fait, en gros, comment ça marche, Kusu Giga ? D'abord, bah, c'est comme tous les animés, en fait, il y a un ONA qui est sorti, un épisode, ça a eu du succès, du coup, ils ont fait 6 épisodes sur la même histoire, ça a eu du succès aussi, du coup, ils ont décidé de faire une série complète en 12.
Okay.
Tous, ça parle de la même chose,
okay.
Mais c'est pas la même chose.
Okay.
Genre, c'est pas les mêmes. Pas la même découpe. C'est pas les mêmes scènes forcément, mais okay. C'est exactement la même histoire.
Okay, okay, okay.
Et moi, pourquoi je vous ai conseillé de faire ça, c'est parce que bah, là, vous avez les images. Vraiment, l'histoire en 25 minutes, c'est littéralement impossible de comprendre ce qui se passe.
Ouais.
Et enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a poussé à regarder la suite. J'ai vu ça, j'ai tellement rien compris, j'ai trouvé ça tellement intriguant que j'ai décidé de regarder la suite.
Okay.
Et je sais pas si quand on regarde les 12 épisodes suivis, vu que c'est beaucoup plus dans l'ordre chronologique les 12 épisodes, si ça enlève pas un peu du mystère et du style d'animé. Mais c'est mon avis. Après, vous pouvez juste regarder les 12 épisodes et puis c'est bon.
Ok, bah, je comprends. Oh, j'avais pas compris. Mais sinon, c'est vrai que l'autre Fully Coolie, ça a l'air. En vrai, ça a l'air bien, je sais pas. En fait, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas,
c'est en fait,
ça a l'air bizarre. Mais
le truc le plus surprenant, moi, le truc le plus surprenant, c'est vraiment l'utilisation de la musique où t'as vraiment eu de la J-pop rock, genre, tu vois, Eve ou des trucs comme ça. Sur une scène où ils sont juste à côté du lac, tu vois.
Ouais.
Donc, c'est genre, c'est vraiment.
Ok, je vois. Après 6 épisodes, bon ça se regarde. Si tu m'avais dit 50 épisodes, je t'aurais dit non.
C'est 6 épisodes de 20 minutes. Après, en fait, c'est juste chaque épisode est super. Enfin, c'est pas chargé, mais.
Il se passe beaucoup de choses.
Ouais, mais ça se suffit à lui-même aussi.
Ouais, ça suffit.
Enfin, ça se suit, mais je veux dire, si tu regardes en une ou deux semaines d'écart, tu vas tout comprendre quand même.
Ok, je comprends.
Sauf le dernier où vraiment j'ai rien compris. Mais bon, c'est. Bon, bref. Donc, Fully Coolie, Now and Then, Here and There et Kusu Giga. Et maintenant, on va faire une pause musicale, justement. Avec un OST de Kusu Giga, vous pouvez sortir vos mouchoirs, c'est très triste, c'est très nostalgique. Arrête de faire cette tête, ça m'énerve.
Oh. Quoi ? Cette question, c'était de la tristesse parce que la musique, elle est triste.
Et ça s'appelle Promise. Promise ? Promise in the snow ? La promesse dans la neige, voilà, bref.
Promise.
Vous allez tout de suite pouvoir entendre ça maintenant. Et bienvenue, bon retour parmi nous. J'espère que vous avez apprécié cette musique et que vous avez bien pleuré. Merde. Ah non, c'est bon ? Ah, et les autres peuvent pas parler. Bon, vous n'avez que moi aujourd'hui.
Super.
Okay. Et de toute façon, c'est à moi de parler encore. Attends, est-ce que c'est à moi de parler ? Oui, c'est à moi de parler. C'est moi le chef de l'émission ici. Je vais vous faire la meilleure recommandation de manga de toute cette émission. Vous n'avez même pas besoin d'écouter les autres. Juste ce que je vais dire maintenant.
Carrément. Rien voilà. Que ça, la meilleure recommandation.
La meilleure recommandation, un manga dont vous n'avez jamais entendu parler, j'en suis sûr à 100%, personne sur cette table, à part moi, l'élu. C'est un manga qui s'appelle Ultra Heaven pour l'Ultra Paradis,
oh
pour
ouais,
ceux que ça peut parler en anglais.
Bien anglais.
Bon, alors déjà, je commence par le seul truc qui est mauvais, à part dans ce manga, c'est que ce sera jamais fini. Voilà, c'est posé là.
Bah déjà, j'ai pas envie de lire.
Ouais.
Voilà.
Bon, bref.
Ça commence pas très bien ta recommandation, j'ai envie de dire.
C'est 3 tomes non finis pour un manga publié en 2001. Il y a 20 ans aussi. Mais c'est un manga incroyable. Voilà. Alors, ça parle de quoi ? Pareil, je passe très vite sur l'histoire parce qu'en vrai, c'est pas très important. Dans un monde futuriste où l'usage des drogues est encouragé par tous les médias, un homme toujours en quête de sensations fortes recherche la drogue ultime, celle qui abolirait les frontières entre rêve et réalité. Sa quête le mène jusqu'à l'Ultra Heaven, une substance d'un genre nouveau, tellement expérimentale qu'elle ne circule que sous le manteau. C'est pas très français. Il décide de la tester sans imaginer les conséquences que ce choix aura sur sa vie. Bon, c'est une histoire encore une fois assez classique. Hein. On est dans
classique.
Le futur. Bah oui, dystopie, drogue, on se drogue. Non mais bon. Mais arrête, il rigole.
C'est
mais...
que les gens, ils se droguent déjà maintenant.
Bon bref, je trouve que c'est pas une histoire très originale, mais c'est pas ça qui est incroyable. Incroyable. Je peux recommencer, je vais pas recommencer.
Non, c'est bon, arrête.
À propos de cette œuvre, ouais. Aiva Melouane, regardez les planches sur internet de Ultra Heaven.
Oui, j'ai vu.
Et vous allez tout de suite comprendre, c'est vraiment magnifiquement bien dessiné. ça part dans tous les sens. Justement, l'aspect drogue, rêve, réalité, il est super bien représenté. L'auteur, alors je suis obligé d'en parler, c'est un mec qui s'appelle Keiichi Koike. J'ai lu tout ce qu'il a fait, voilà, tout simplement. Une fois que j'ai lu Ultra Even, j'ai lu tout ce qu'il a fait. Bon, il n'a pas fait énormément de choses non plus. Mais en fait, là où il est très fort, c'est qu'il fait que des histoires avec des visuels. En fait, j'ai pas d'autre mot qu'incroyable. En fait, je sais même pas comment dire. C'est surréaliste. Voilà, le bon mot, c'est surréaliste. Okay. Et donc, Ultra Even, c'est exactement ça. On est sur donc de la science-fiction dure, mais puisqu'il y a de la drogue, ça part dans tous les sens au niveau des planches. En fait, les mots me manquent pour décrire les planches. Est-ce que vous avez des mots pour décrire les planches? Je ne saurais même pas le faire.
Bah, t'as des sens, ça, c'est un peu fractal, on va dire.
Ouais, un peu fractal, ouais, c'est bien.
Bon, il y a énormément d'œil partout, j'ai l'impression.
Ouais, ça, c'est une scène en particulier.
Mais en fait, ça a l'air assez angoissant à lire, en fait, aussi.
Alors, voilà. Un autre truc, c'est que, bon, c'est pas pour tout le public, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose de mal, c'est pas pour les adultes ou pour les enfants, c'est juste qu'il faut être prêt pour lire ça, parce que, comme t'as dit, bon, vous savez, il y a beaucoup de trucs où on dit, ouais, les romans, faut se concentrer, bah là, faut se concentrer sur les dessins, parce qu'il y a tellement de trucs. Quand tu lis, effectivement, ça te fait rapidement mal à la tête, parce que tu dois te concentrer sur tout. L'aspect frontière entre rêve et réalité est très bien fait, il y a des moments où on ne sait pas ce qui se passe, franchement, on ne sait pas. Ça fait 300 pages que le mec il est quelque part et on apprend qu'il est dans un rêve, deux rêves, dans un rêve et qu'en fait il prend une drogue et qu'en fait il est dans un jeu vidéo. Bref, on comprend plus rien. Donc il faut s'accrocher. Mais je vous le promets, même si c'est pas fini, ça vaut vraiment le coup, juste pour les dessins, juste pour l'histoire et juste pour le voyage que ça va vous faire. Voilà, est-ce que ça vous dit de le lire, les amis?
Pourquoi pas?
Ouh, ok, ouais. J'ai compris. Alors. Est-ce que ça te dit de le lire, Melwan?
C'est combien de tomes?
3.
En vrai, pourquoi pas?
Trois tomes, oui, ça se fait.
Bon, voilà, c'est pas pour les enfants comme Melwan et Aeva, mais pour les adultes comme vous, les chers auditeurs, et moi.
Ok.
Le boss de cette émission.
Pourquoi Aeva? Moi, d'accord, je suis plus jeune. Mais
moi, ça va, hein, je suis.
Elle est méchante avec moi.
Ça n'a rien à voir. Mais. Ouais, non, ça a l'air spécial. En fait, moi, ce que j'ai peur en voyant ça, c'est que tout soit dans le dessin et dans un peu le côté bizarre, mais qu'il n'y ait rien après dans le scénario, dans la narration. Et dans tout ce qu'il y a autour.
Bah en fait,
de quoi ça parle en fait?
Bah ça parle de ce que je viens de te dire.
C'est-à-dire en fait, le futur, on prend de la drogue et voilà.
On suit juste l'histoire d'un type qui se fait. Enfin, en vrai, c'est vrai que le résumé dit pas grand-chose. Bon, c'est un résumé que j'ai pris sur un site. Bon, voilà. Au début, c'est vraiment ça l'histoire. C'est juste un gars qui a besoin de drogue. Il trouve une drogue qui est plus forte que les autres et il finit par la prendre. Mais en fait, il y a plein de toutes petites intrigues mêlées d'une qui est un peu plus grande. Mais ce serait impossible à expliquer. C'est vraiment.
Est-ce que c'est un peu un slice of life, mais dans le futur?
Non, pas du tout.
Sous drogue, non?
Enfin, un peu au début. Peu au début. Mais c'est tellement tout le temps sous drogue qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est un slice of life, quoi. Ça part tellement tout le temps en cacahuète de partout. Parce que vraiment, il me semble que le premier tome, c'est vraiment, il cherche de la drogue. On ne sait pas si ça arrive dans une réalité, il prend une drogue. Bon, bref, ça a l'air vraiment nul comme ça. Voilà, bon, là, à cause d'Aeva, ça a l'air nul ce que
comment
j'ai dit.
Ça, ça.
Mais c'est vraiment.
C'est toi qui vends ton manga. Hein.
J'ai perdu la confiance maintenant.
Oh, mais non.
Et tout ça, c'est de la faute d'une seule personne. Bref.
Super.
Mais non, c'est vraiment incroyable.
Un commentaire. Bon.
C'est vraiment incroyable. Je vous le conseille vraiment, Ultra Even. Franchement, je pense que vous n'aurez encore une fois, je l'ai dit beaucoup de fois, jamais lu quelque chose comme ça. Je pense que vous pouvez me le confirmer, non?
Oui, totalement.
Pour le coup, là, il y a certaines planches vraiment.
Après, les dessins, ils sont stylés, ça. Pour le coup, on peut rien dire là-dessus. Ils sont stylés, ils font peur, honnêtement.
Ouais. Et donc voilà, si vous voulez vraiment, je sais pas moi, expérimenter un nouveau type de manga, parce qu'en plus, cet auteur, il fait que des trucs très singuliers. Et n'hésitez pas à lire Keiichi Koike, du coup, et Ultra Even. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à mes compatriotes.
Je vais vous parler d'un manga qui n'est pas, à proprement parler, une perle rare, puisque, en fait, c'est considéré comme un classique du shoujo, mais comme hors de cette sphère, peu en entendre parler, bah, c'est dommage. C'est pour ça que je choisis d'en parler aujourd'hui, parce que c'est quand même considéré comme un chef-d'œuvre. Littéralement, et je suis assez d'accord. Du coup, ce manga, c'est Mars de Fuyumi Sorio, qui est sorti entre 1996 et 2000. Donc le manga est fini. Et en fait, Mars, c'est assez difficile à résumer, parce que je pense que moins on en sait, mieux c'est. Parce qu'on pourra plus facilement se laisser surprendre et se laisser porter complètement par l'intrigue, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à lire, j'ai lu aucun résumé, rien du tout. Je savais juste que c'était un shoujo, que c'était bien. Et voilà, c'est tout. Et que c'était considéré comme un chef-d'œuvre, je me suis dit, ça peut que être bien, donc je vais me lancer dedans. Et effectivement, j'ai été très surprise par moment, par l'intrigue, mais en quelques mots quand même. Kira et Rei sont deux lycéens que tout oppose, mais qui vont malgré tout développer des sentiments l'un pour l'autre. Le truc de base, c'est vraiment ça. Et jusque-là, c'est vrai que c'est plutôt classique, et bon, j'entends que vous ne soyez pas convaincus. L'intrigue prend un autre tournant quand on en apprend plus sur le passé des personnages. entre des histoires familiales ou simplement des histoires personnelles complexes, culpabilité, de violents traumatismes. Il va leur falloir démêler le vrai du faux, aussi bien dans leurs histoires personnelles que dans les sentiments qui les lient, et compter l'un sur l'autre pour espérer avancer et guérir ensemble de leur passé, de ce qui leur est arrivé en fait en réalité. Savoir concilier le passé avec soi-même au présent et aussi avec le futur qu'on espère avoir, d'autant qu'ils espèrent avoir un futur ensemble, etc. Bref, j'entends que ça vous convaincra. je sais très bien, mais vous ratez, tant pis pour vous, j'ai envie de vous dire.
Là, ça nous intéresse, moi ça m'intéresse, Eva.
Bah, tu le liras, du coup.
Peut-être.
Ouais. J'ai rarement lu un manga qui m'a autant prise de court et qui m'a autant touchée, d'autant que les personnages sont très très bien écrits. Enfin, je le pense sincèrement, à tout moment du manga, à tous les chapitres, du début jusqu'à la fin, et surtout à la fin, à chaque arc, en fait, il y avait déjà des choses qui me surprenaient, parce que je ne pensais pas que ça allait arriver, et puis juste des choses qui étaient hyper émouvantes, qui se passaient sincèrement, et c'est pas... Je trouve que c'est pas un manga cucu. Alors oui, certes, il y a des histoires... Le truc de base, c'est une relation sentimentale. Mais déjà, c'est pas grave, l'amour, c'est pas grave, c'est pas nul, les mangas, enfin, c'est bon, on n'est pas là pour la bagarre, les trucs bizarres et tout, enfin, ça va. On peut apprécier aussi des histoires qui parlent d'amour, mais surtout, ça ne parle sincèrement pas du tout que de ça. Et je trouve que c'est pas fait de manière cucu de toute façon, et voilà, donc ça c'est pour essayer de vous convaincre. Des personnages sont très très bien écrits, le manga, il est, c'est un beau début on va dire, la fin je la trouve vraiment très bien et très touchante aussi, et très encourageante, positive, je sais pas comment dire. Bien que le manga aborde des sujets qui sont honnêtement difficiles, qui peuvent être difficiles à lire pour certaines personnes j'imagine, donc attention. Et certains aspects du manga, faut quand même le dire, ont un petit peu vieilli parce que les années 90 c'était quand même une autre époque. Les dessins, c'est des dessins de manga des années 90, j'imagine. Moi, ça me plaît d'autant que.
Non, c'est joli,
moi, je trouve
hein.
Ça joli.
Je trouve ça très beau.
Moi, je trouve ça très joli. La composition de certains panels sont très impactants, on va dire. Pour ceux qui ont lu, je pense que vous saurez de quoi je parle. Et voilà, en tout cas, c'est très efficace.
Combien de tomes, excuse-moi ?
Ça dépend, parce qu'il y a plusieurs éditions. Enfin, je crois que c'est une vingtaine de tomes.
Ah oui, quand même. Ok.
Je crois.
Ok.
Mais voilà, du coup, je...
Est-ce que tu es intéressé, Melwan ?
Moi, c'est vrai que ça m'intéresse parce que...
Le menteur.
Mais... Non, ça m'intéresse parce que ce que j'aime pas souvent la plupart du temps dans les mangas de shoujo, etc., c'est que les personnages sont pas super souvent genre très typés, et j'aime pas les trop regarder un manga sur des relations entre des stéréotypes vivants. Donc voilà, donc c'est, mais si tu me dis que c'est bien écrit, ça me donne quand même plus envie de voir.
Après, sincèrement, au début, quand tu lis le premier tome, tu te dis, ok, le mec stéréotype du bad boy qui a une moto et qui veut pas risquer et qui se bat à l'école, mais en fait, il a un cœur tendre. En vrai, c'est ça. Et après, la fille, au début, oui, c'est la fille timide qui est dans un coin de la classe, mais en fait, elle est passionnée d'art, nanana. Bon voilà. Et en fait, après, quand tu dépasses ça, quand tu continues à lire et que, c'est ça, que tu continues à lire et que tu continues à apprendre à connaître les personnages, tu te rends compte que en fait, ils sont vraiment touchants et qu'il y a plus que ça derrière, oui. Quoi. Et qu'au final, même si, peut-être qu'ils correspondent à certains clichés, dans la vie, on est tous des clichés de toute façon.
Mais problème, c'est pas forcément qu'ils représentent des clichés, mais le problème, c'est que des fois, c'est juste le cliché, quoi.
Là, il y a vraiment plus que ça derrière. Ouais. Et voilà, Mathieu, je sais pas ce que t'en penses, toi.
Mais je vais peut-être le lire. Hein.
C'est vrai.
Et ouais, ça l'a... Mais après Full Night. Après Full Night.
Oui.
D'accord.
En fait, le seul truc qui me retient, c'est qu'il y a 20 tomes. Et que 20 tomes, c'est
ça
long.
Ça se lit très vite. Ça se lit très vite parce que souvent, il n'y a pas énormément de texte. Les pages ne sont pas remplies de texte. C'est souvent très visuel, très imagé. Tu te trouves souvent avec des panels comme ceci, où c'est juste des beaux dessins qui racontent quelque chose. Ou alors, parfois, t'as les personnages, tu les vois marcher ou interagir, mais dans le fond, il n'y a pas énormément de dessins derrière. Enfin voilà, c'est très, très épuré, je dirais, comme,
j'ai vu.
Comme style quand même.
Non, ouais, ça a l'air vraiment
moi, je l'ai lu vraiment très vite. C'est l'un des meilleurs mangas que j'ai pu lire.
Ah bon ?
Et en tout cas, c'est une de mes lectures préférées, si ce n'est ma lecture préférée dernièrement. Après, on n'est pas tous touchés par les mêmes choses. Moi, ce qui va me faire aimer un manga, c'est le fait qu'il va me faire ressentir des émotions, qu'il va me faire m'attacher au personnage, ou juste, j'avais l'impression que c'est limite à moi que ça m'arrive, quoi, on va dire, ce qui traverse les personnages. Et là, ça a hyper bien marché. Ça faisait super longtemps que... j'avais un peu une panne de lecture là, ces derniers mois. Et en fait, ça faisait super longtemps que... Je sais pas, j'avais pas commencé un manga et je pouvais plus l'arrêter en fait. je crois que je l'ai lu en quelques jours.
Ah oui,
et bah, ça m'arrive pas en général parce que j'ai la flemme de lire en général ces derniers temps, mais là ça me l'a vraiment pas fait. Donc c'est aussi pour ça que j'étais très contente d'avoir lu ce manga. Pour moi, c'était un peu le destin, quoi, je veux dire.
Ben, okay,
je sais pas de quoi ça parle et puis ça tombe sur
mon. A écouté ta critique, enfin ta recommandation.
Oui.
Elle est sortie de mon autre oreille. Et non,
super.
Non, mais tu rates quelque chose. Je pense sincèrement que tu rates quelque chose.
Et je vais laisser la parole à Melwan Makanaï.
Ok. Alors, du coup,
ce que tu as présenté là.
Je vais vous parler d'un animé, mais qui est du coup sorti comme manga à la base, pas comme Foolie Coolie, je crois que c'est que...
Il y a un manga qui est sorti en même temps que l'animé.
Ah ouais,
ouais.
Ok, bon, bref, dans tous les cas, ça c'est juste une adaptation d'un manga, je crois. Et du coup, c'est... en fait, je pourrais pas vous donner de synopsis.
Ça s'appelle comment ?
Ça s'appelle Mushishi.
Ah, je connais. J'ai pas regardé.
Voilà. Bah voilà. Bah tu.
Bah moi je connais
chose.
Pas du tout. Vas-y Melwan.
Bah merci Eva.
Je connais pas du tout.
Ah, bah, vous savez, je peux vous mieux tous les deux et parler tout seul. Aussi.
Et du coup, alors Mushishi, en fait, c'est un animé assez particulier parce que je pourrais pas vous faire vraiment de synopsis à part vous donner les bases sur lesquelles se repose chaque épisode, parce que chaque épisode est pas forcément lié. Et comment dire, ça se fait quand même sur 25 épisodes, mais c'est vraiment pas un problème. Mushishi, ça se passe dans un monde, plus précisément, enfin ça se passe au Japon, dans un monde où au lieu d'avoir, enfin le folklore de ce monde, c'est autour des mushi. Donc c'est-à-dire que nous on connaît le folklore japonais, la religion grecque, toute la mythologie grecque, toutes les légendes de plein de folklores différents. Eh bien là c'est exactement la même chose, mais sauf que ça utilise un folklore totalement nouveau. Enfin je n'ai jamais entendu parler ni vu des trucs qui ressemblent ne serait-ce qu'un peu à ce qu'il y a dans Mushishi. Donc c'est ça que je trouve vraiment le point principal, vraiment très impressionnant. Je me doute qu'il y ait des inspirations, notamment vu que ça se passe pratiquement qu'au Japon, du folklore japonais, mais j'ai regardé 5 secondes sur Reddit et j'ai pas vu
la taille des recherches,
étudiant ingénieur.
Mais c'est vraiment le folklore de ce monde, du coup, est vraiment original par rapport à tout ce que j'ai vu avant.
C'est vrai.
Et donc, c'est pour ça que je trouve vraiment déjà impressionnant. Et en plus de ça, en fait, toujours dans cette histoire d'avoir des légendes, un folklore, quelque chose de neutre, qui dit pas forcément quelque chose en particulier, mais où juste ça se déroule, sans forcément que ce soit mauvais. Chaque épisode c'est ça, c'est-à-dire que c'est une mini histoire sur un mushi particulier. Des fois les mushi se répètent, des fois pas. On a quand même un personnage principal qui s'appelle Ginko, qui va du coup de village en village pour essayer de régler les problèmes des mushi. Et la justification pour laquelle il se balade un peu partout, c'est parce que s'il reste trop longtemps au même endroit, il va attirer trop de mushi parce qu'il a plein d'affaires mushi sur son dos, parce que c'est son job en gros. Et du coup, chaque histoire commence avec dans un village différent, quelque part au Japon, ou même en plein milieu de la forêt, où il croise une fille qui a les cheveux verts et qui se déplace avec des marais. C'est très particulier. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans Mushishi, c'est que à chaque fin d'épisode, à chaque fin d'épisode, l'histoire qui s'est passée, elle restera dans ma tête. Elle n'est pas forcément révolutionnaire. Elle est juste bien écrite par rapport aux personnages qui sont dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'ils ont des problèmes. Et nous, on a peut-être la solution, peut-être on l'a pas, mais tout ce qui compte, c'est juste que de leur point de vue, ils sont dos au mur, et ils demandent de l'aide du maître Mushi. Et quand je dis que ça ressemble un peu aux légendes, un peu de mythologie grecque et romaine, c'est juste que c'est pas forcément, ça se termine pas forcément bien, mais ça se termine pas forcément mal non plus. C'est un peu un entre-deux à chaque fois. Et c'est plutôt imprévisible Enfin, c'est dans tous les cas, même si on arrive un peu à comprendre ce qui va se passer à la fin, c'est quand même divertissant à voir et très, très calme aussi, tout en étant très beau. En fait, en général, c'est pas quelque chose qui va révolutionner ma manière de voir une histoire. C'est pas quelque chose qui va, comment dire, mettre un nouveau standard dans n'importe quelle catégorie. C'est juste que c'est une esthétique avec des animaux, des mushis un peu particuliers, des personnages qui sont du Japon féodal, mais ça reste quand même intéressant de voir comment chaque personne vit sa vie. Et derrière, avec aussi une musique très intéressante. Donc ça fait qu'il y aura, j'ai clairement eu une grosse impression esthétique de cet animé.
Il y a combien d'épisodes ?
Alors, il y a 26 ou 25 épisodes dans la saison 1. Et je crois qu'il y a,
deux saisons ?
Ouais, il y a deux saisons.
Et le manga continue ?
Et le manga, attends, je regarde ça, mais je crois que le manga est fini. Bah, en fait, le truc, c'est étant donné que chaque épisode est un peu parolier.
Oui, non, mais c'est juste pour savoir.
Ça fait que, bon, bah, c'est pas vraiment important de. Peu importe où tu t'arrêtes. Bon, alors, quand tu termines un épisode, t'es juste satisfait, t'as bien mangé.
Moi, je vais donner mon avis, et ouais. Après, je serai à parler. Moi, j'ai commencé à le regarder. J'étais dans une période de ma vie. Alors je me sens.
Oula.
Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je voulais des trucs d'action à ce moment-là. Et Mushishi, c'est ouais. Ça. Hein. C'est pas de l'action.
C'est du pas tout. Du tout. C'est pas du
donc,
tout.
Donc, en gros, je me suis arrêté au bout de 4 épisodes.
Ouais, voilà. Ouais.
Voilà. Donc, si vous cherchez de l'action, passez votre chemin.
Moi, je comprends. En vrai, ça a l'air très, très apaisant, très ouais. Nature, très.
C'est joli. C'est.
Enfin, ça a l'air très joli en tout cas de ce que je vois.
Ouais, c'est très chill. La musique est vraiment particulière aussi. Et vraiment, tout cet aspect autour des mushis, il est, je trouve, vraiment très cool. Parce que, bah, du coup, c'est vraiment tout un folklore raconté un peu comme si c'était une légende.
Ouais, je vois. Ouais, c'est un peu une suite de petites histoires. Enfin, moi, ce ouais. Qui pourrait le plus me déplaire, à la limite, c'est le fait que les épisodes sont tous indépendants les uns des autres. Parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à suivre, en général. Parce que, du coup, ça ouais. Me donne pas envie de regarder la suite, vu que bah, l'épisode était bien.
Oui,
donc voilà, mais ça, en vrai, c'est pas forcément trop... grave ou quoi, mais en tout cas je trouve que ça a l'air sympa et j'ai regardé un peu pendant que tu parlais et les mushis, j'ai l'impression que ça enfin c'est pas un vrai truc, genre c'est dans l'histoire.
Oui oui, c'est ça, c'est ouais, bah c'est ouais. Un peu ce que j'essaie de dire, c'est tout un
c'est une espèce de folklore inventé ouais, en voilà, fait, mais ça. En même temps qui se base sur des vraies choses aussi, j'imagine
ouais,
quand
ouais,
même
ouais, inspiré de bah, en fait j'en sais rien, mais le truc c'est que à chaque fois qu'il parlait d'un mushi, c'était en même temps assez cohérent et bah ça s'inscrivait quand même dans un monde assez bizarre, donc enfin genre c'est très comme des folklores japonais, en fait.
Ok, je vois.
Bon, c'est tout ? C'est bon ? C'est fini ?
C'est fini, oui.
Il nous reste un peu de temps.
On peut peut-être faire un petit classement, tous ouais. Des trucs qu'on préférerait voir.
Ok, ouais. Bah, c'est pas compliqué. Tout ce que j'ai, tout ce que j'ai conseillé,
non, mais,
je le mets en premier.
Non, mais pas ce qu'on a conseillé, nous. Ce qu'on conseille les autres, ça sert à rien, sinon.
Bah, je pense que c'est facile, non ?
Bah, non, pas forcément, ça dépend.
Bah, moi, c'est évident pour moi. Full Night en premier.
Ça me fait plaisir. On dirait que c'est moi qui ai écrit le manga, mais ça me fait très plaisir. Bah, tu aurais raison.
Mais Loan, t'as pas le droit de dire Full Night. T'es obligé de dire.
Non. Le concept de.
Je.
Wow. Bigimon.
Non, bah, je pense que. Full Night,
il te devait venir qu'un seul.
Un seul ? Bah, je pense que je terminerai The Punisher que j'ai commencé.
Ce n'est pas dans l'émission.
Non, mais enfin, on me demande. Bah, en vrai, je pense que bah, Full Night en soi, c'est un peu. Bah quoi mais,
t'as raison.
Et toi, Isa, t'as pas le droit de dire Full Night du coup.
Bah non, du bah, coup, bah, non, je dirais ce que t'avais proposé, Malouane, Homonculus.
Ouais.
C'est comme ça que ça se dit, je suis pas sûre.
Moi, Homonculus ou Homonculus je crois que c'est Homonculus.
Moi, si je devais en lire qu'un, je pense que ça serait.
Ouais. Après,
je suis désolée, ça serait pas.
Après, je sais pas si je l'ai assez précisé, mais il y a vraiment des scènes choquantes et un peu en mode. Bah,
c'est pas pour les enfants, Eva.
C'est le personnage principal, c'est une merde.
Il y a des trucs très chauds quand même. Hein.
Bon, ouais,
moi, je me souviens d'une scène en particulier, je comprends pas pourquoi.
Ouais, moi non plus.
Ouais, on a la même scène dans la tête. En fait, le truc, quand on dit que c'est hardcore, c'est vraiment bizarre.
Au pire, si ça va pas, j'arrêterai de lire, vous inquiétez pas.
Pour les enfants, pas... Eva.
J'ai bien compris. C'était pas pour les enfants. Mais en tout cas, c'est celui qui m'a le plus intriguée jusque-là. Maintenant, attendez, en fait, il faut que je revoie ce que tout le monde a proposé.
En fait, il n'y avait pas tant de mangas que ça.
Non, il y a beaucoup d'animés. Fouli-Couli, en vrai, ça avait l'air cool. Ouais. Fouli-Couli, je pense que je vais regarder, c'est quasiment sûr.
Honnêtement, je pense que celui qui te paie... Mon avis, je pense que c'est Kyuzo Giga.
Oui, aussi. Plus ouais.
Fouli-Couli. Parce que Fouli-Couli, c'est. En fait, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très bien. Mais je pense que la première fois qu'on regarde, on ne comprend rien de ce qui se passe, quoi. Et du coup, ouais. Ça peut un peu. Tu finis, tu es en mode, ah ouais, c'était bien. Et tu le regardes plus tard, là, tu trouves ça vraiment bien.
Mais après, en fait, c'est assez unique quand même pour ouais, garder une impression, quoi. Genre, c'est en mode, forcément, au bout d'un moment, tu vas revenir. Et vu que tu re-regardes, tu commences un peu à comprendre ce qui
après, si je devais vous conseiller une seule série, c'est Arcane. Bref.
Mais t'as mais chié sur
hypocrite.
La série.
C'est un hypocrite. C'est
t'as chié sur la série au début.
N'écoutez pas ce type.
Bon, en vrai, il nous reste un peu de temps. Donc, si vous avez rapidement. Parce qu'en fait, à la base, on avait préparé d'autres choses en plus, ouais. Mais on savait pas si on avait le temps. Si vous avez. Bah, il y a quelque chose, ouais. J'en ai aussi. Allez. Bah, vas-y, Melwan, conseille.
Bah, moi, alors en fait, moi, c'est un webtoon. Et un peu dans le même esprit que Mushishi, ça va pas forcément révolutionner.
Quoi c'est pas du tout dans le même esprit que Mushishi ton webtoon.
Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est. Laisse-moi parler. Ça va pas révolutionner une vision de voir les mangas. Ça va pas être.
Je suis pas spécialement d'accord.
Bah.
Ok mec, c'est bon. C'est... Non mais laisse-le finir avant de réagir.
Et parce que c'est le plot est original, donc ça, c'est un webtoon qui s'appelle Helper et le plot c'est un mec qui se retrouve en enfer et comment dire, il du coup. Il se plaît un peu en enfer, mais sauf qu'il se rend compte que bah il y a quand même beaucoup de gens auxquels il est attaché sur Terre, et donc il veut retourner sur Terre. Et donc pour ça, il faut qu'il collecte 100 tickets noirs pour réussir à avoir un ticket blanc qui lui permettrait de retourner sur Terre. Sauf que bah le problème c'est que apparemment les circonstances sur sa mort sont un peu louches. Dans la vraie vie, et tous ses proches s'interrogent dessus. Et quand je dis ses proches, c'est un énorme gang de motards de quoi, 300 personnes, un truc comme ça. Donc c'est assez particulier. Mais ce qui est vraiment bien avec Helper, et je vous invite vraiment à regarder sur internet des panels, c'est incroyable. Que ça n'a rien à voir avec n'importe quel webtoon que j'ai vu. C'est vraiment
le meilleur. Franchement, moi, je trouve que c'est le meilleur.
En fait, le truc, c'est que c'est. Il n'y a pas de convention. Toutes les conventions auxquelles on pourrait imaginer autour de la. Comment dire. Je vais réussir à parler. La littérature japonaise et coréenne, tous ces. Un peu ces a priori avec comment les personnages ressemblent, l'utilisation des couleurs, etc. Il n'y a rien de tout ça. C'est beaucoup plus proche de n'importe quel one-shot qu'on a dans. Dans notre armoire que d'un webtoon classique en fait. Ce qui fait que c'est vraiment très amusant en plus à voir, c'est-à-dire que même en termes d'exécution de certaines blagues, en vrai je trouve ça un peu drôle, l'exécution, il y a des gags visuels, le personnage principal est un peu drôle, l'enchaînement des événements aussi est intéressant, c'est franchement très bien réfléchi. L'utilisation des couleurs, parce que dans les webtoons, pas comme dans les mangas, on peut utiliser des couleurs. Et en fait, l'utilisation des couleurs, elle est vraiment très spécifique dans ce webtoon. C'est-à-dire que le rouge, ce sera uniquement le sang. Tout est en noir et blanc. Et des fois, dans les scènes les plus grandioses, on peut voir vraiment beaucoup de couleurs très bien choisies. Et le style graphique, du coup, s'allie beaucoup avec cette idée d'utiliser des couleurs à des moments précis. Et on a aussi des designs de personnages vraiment, vraiment impressionnants, donc avec le personnage principal, des personnages secondaires qui, en général, enfin, même dans tout le manga, quand tu meurs et que t'es réincarné en enfer, tes vêtements et comment tu ressembles aura un lien avec comment t'es mort. Ce qui fait qu'on se retrouve avec et du coup, forcément, c'est un webtoon de combat. Pour collecter les 100 tickets noirs. Et Du coup, on se retrouve avec des combats où le personnage va balancer un coup de poing avec une, comment dire, un tuyau d'échappement derrière, en mode son bras est une moto. Ou un autre qui utilise comment dire, un briquet et il l'a fumé en général pour se battre. Donc c'est vraiment très intéressant et je le recommande beaucoup.
Moi je vais en parler un peu, bah là de toute façon je vais le relire, j'avais oublié, voilà je vais le relire. Franchement j'ai pas lu beaucoup Webtoon, mais moi mon avis sur les Webtoon c'est que c'est pas bien, mais lui il est vraiment incroyable.
Voilà. Ouais, c'est, en fait c'est vraiment, quand je dis que c'est beaucoup plus proche des one-shots qu'on a dans l'armoire, ouais. C'est zéro exagération.
C'est super bien dessiné, ouais. C'est rigolo, c'est de loin le meilleur Webtoon que j'ai lu. C'est vraiment incroyable, je pense qu'il faut le dire, hein, c'est tout. Hein. Mm. C'est gratuit, en plus, franchement, il n'y a pas de... Y a pas...
Ouais, c'est sur Webtoon, là, je vais sortir, je vais le lire, et franchement, c'est
exactement fait. Pareil.
Et ben...
Voilà,
donc, qu'est-ce que t'en penses, Eva?
Moi, en vrai, j'en vois les dessins, et en vrai, ça a l'air vraiment stylé. Tout ce que vous ont dit, ça a l'air vraiment cool.
Mais c'est fini ou pas?
Bah, je sais pas. Parce que moi, en fait, je me suis arrêté, ça s'arrête... Il y avait plusieurs parties, et je me suis arrêté...
Parce que je crois que c'est vieux, quand même.
J'espère que c'est fini. C'est sûr que si c'est pas fini, c'est comme ce que disait Eva pour Mars. Non, ça.
Si c'est fini.
Je sais plus. Il faut le. Ah bah c'est bon.
188.
C'est genre de truc où.
Et le dernier.
Tu veux plutôt le lire d'un coup, enfin d'un coup sur 3 semaines quoi, mais.
Ouais. C'est clair.
Voilà. Bon bah si c'est fini, vous n'avez aucune raison de pas le lire. Voilà. Lisez ça avant tout ce qu'on a dit, mais surtout avant tout ce que les autres ont conseillé.
Mais après Full Night quand même.
Et non, avant Full Night.
avant tout.
Je pense les amis que c'est parfait parce qu'il.
Bah, est-ce qu'on peut faire des mentions spéciales?
Oui.
Allez.
On a le temps de faire quelques mentions spéciales.
Vas-y.
Fais-toi plaisir.
Alors, moi, je mention spéciale à ma maman qui.
Wow. Okay. Maman qui est un manga.
Non, mais. donc, mention spéciale à Soul, le film d'animation qui est sorti en 2022. Donc, c'est. Ouais. Vraiment,
j'ai pas vu, mais...
Oh, ouh, en fait, c'est un film d'animation Pixar, mais genre, c'est vraiment... ça se sent qu'il y a eu beaucoup d'efforts sur ce truc, et l'intrigue de base, c'est à propos d'un mec de 41 ans qui est trop fan de jazz, et puis il meurt, et puis voilà, et je dis pas plus, mais c'est... En fait, il y a certains moments, je me suis dit... Enfin, genre... De tous les films Pixar, ça doit être l'un des meilleurs et des plus méritants d'être un film Pixar, quoi. Parce que ça utilise beaucoup d'animations très précises au niveau des touches de piano, des shots qui sont très détaillés, avec des couleurs vraiment impressionnantes, etc. C'est franchement à voir. Un des meilleurs films Pixar que j'ai vu, je pense.
Ok, ça marche.
Et je sais pas si toi.
Moi, j'ai pas forcément de
mention spéciale.
Non, j'ai pas réfléchi, du coup, j'en ai pas.
Bon, moi, rapidement, ce week-end, j'ai lu L'Ère des Cristaux, 14 tomes, fini en une après-midi. C'était super bien. Voilà. L'Ère des Cristaux, vous pouvez le lire. C'est mieux que tout ce qu'ils ont conseillé, attends, encore une fois.
C'est quoi, L'Ère des Cristaux?
L'Ère des. Je vois, Aïba qui est saoulée.
C'est pas.
Qui m'en parlait depuis 3 jours.
C'est pas Hoseki. Enfin, c'est pas le.
Non, en japonais, je connais pas.
Attends, je vais te donner une image.
Bon,
tu couperas.
Ouais. Ouais.
Bon, ça va clôturer.
Si, j'ai une recommandation, en fait.
Ah bon, ok, elle me coupe la parole.
Ouais, je te coupe la parole. C'est Goku Rakugai. C'est un manga que je lis en ce moment, qui a à peine commencé, il y a 24 chapitres. C'est vraiment rien. Ça fait beaucoup penser à Jujutsu Kaisen dans De quoi ça parle.
Ah oui.
Et ouais. Dans certains trucs, du coup, on est en mode, bon, ok... On a lu Jujutsu Kaisen.
Elle est fan, elle est fan.
Mais en fait, pour Rakugai, bah, en fait, ce qui est vraiment attrayant, c'est que l'univers et les dessins sont hyper, sont hyper charmants, hyper charismatiques. T'as envie de lire, t'es dedans. Les personnages, ils sont trop rigolos. Enfin, rigolos, pas forcément, mais ils sont cool en tout cas. Les chara-design sont. Oh, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Voilà, du coup, lisez ça, c'est bien.
C'est à mon tour de clore l'émission. Mon autorité a failli. J'en ai assez de faire cette émission avec ces gens-là. Et donc,
ça
je vais vous quitter.
Hyper plaisir.
Bon, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Et on va se quitter avec justement l'un des OST, l'une des musiques de Fouli Couli, qui est ma musique préférée d'ailleurs. Voilà, c'est tout en fait.
Bah, super.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Et à la prochaine. With a kiss, think of the future.
Just the way they rose and little brass eyes. Hell yeah.